Vous écoutez France Inter, il est 8h30. La revue de presse, Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
La presse est faite ce matin d'histoires d'hommes.
Et les hommes dont on parle dans Le Monde, ce sont les Sierra Leonais, ces hommes qui cherchent désespérément leurs proches depuis lundi, depuis ces inondations et ces glissements de terrain qui ont ravagé Freetown, la capitale. Au moins 450 personnes ont été tuées, près de 600 autres restent portées disparues. La morgue centrale est surchargée, décrit Patricia Joly. Les survivants s'y pressent pour tenter d'identifier les dépouilles quand d'autres font le siège à l'hôpital à la recherche des leurs. Mais parfois, ces recherches ne donnent rien puisque des dizaines de corps ont déjà été enterrés de façon anonyme dans de simples sacs mortuaires. Mesure de salubrité pour éviter les épidémies qui menacent désormais les quelques 1 200 000 habitants de cette ville de l'Ouest africain.
Dans la presse ce matin également, cette chasse à l'homme lancée par la police espagnole.
Lancée pour retrouver Younes Abou Yacoub. On en parlait à 8h. À 22 ans, ce Marocain est soupçonné d'être le conducteur qui a foncé dans la foule sur les Ramblas de Barcelone. Il n'a pas agi seul, on le sait, tout un commando est à l'origine des 14 morts et 120 blessés. Un commando qui visiblement voulait frapper plus fort, on le sait également. Ce qu'on apprend dans le journal du dimanche, c'est que la Sagrada Familia a été visée. La basilique inachevée de Gaudi, symbole de Barcelone, visitée chaque année par 3 millions de touristes. Des touristes, des hommes et des femmes qui n'hésitent pas à publier des messages parfois déconcertants sur les réseaux sociaux. C'est le syndrome du « j'y étais » et l'Obs a décidé de le décrypter sur son site. René Grezard le rappelle d'entrée de jeu, Internet n'oublie jamais de rire, même quand il est triste. Et s'il rit un peu aujourd'hui, c'est un rire moqueur. Les réseaux sociaux s'amusent de tous ceux qui postent depuis jeudi des « j'y étais la semaine dernière, j'y étais il y a 3 mois, j'y étais en 2008 ». Évidemment, poursuit l'Obs, les « j'y étais » postent aussi des photos d'eux sur les lieux du crime. Quand les photos ont été prises, ils souriaient, portaient des lunettes de soleil ou un maillot de bain. Normal, c'était les vacances, pas trop ambiance attentat donc. Mais ce n'est pas grave, l'important c'est de dire qu'on y était. La réaction est humaine, insiste René Grezard. On se dit que quelque part, ça aurait pu nous arriver. On exprime assez maladroitement une émotion sincère. Certains internautes y voient de l'indécence, quand d'autres préfèrent en rire. Et l'Obs de publier une série de tweets franchement drôles, il faut le reconnaître. Mais l'auteur de l'article l'assure, cela va un peu plus loin. L'agacement que suscitent les j'y étais nous dit quelque chose sur notre rapport aux réseaux sociaux, sur notre rapport aussi à nous-mêmes. De là à savoir si l'on peut s'intégrer à la conversation mondiale sur un attentat en parlant de soi, René Grezard nous laisse libre de choisir la réponse.
Et c'est donc à lire sur le site internet de l'Obs. L'économie française qui redémarre, ça c'est le choix du journal du dimanche.
Ça va mieux du côté de l'emploi, du bâtiment, du tourisme, de la consommation. La relance se confirme, assure le JDD, et cela tient en partie à un homme, François Hollande, ou en tout cas aux mesures prises par l'ancien président de la République. C'est l'analyse de l'économiste Patrick Artus à lire dans le journal du dimanche. Et d'après le directeur de recherche et des études économiques de la banque Natixis, si la croissance reprend du poil de la bête, c'est à 60% grâce à la conjoncture mondiale. 20% reviennent à la Banque Centrale Européenne et sa politique monétaire qui maintient des taux d'intérêt bas. Les 20% restants sont attribués à François Hollande. N'en déplaise aux détracteurs de l'ancien chef d'État, le crédit impôt compétitivité emploi, le pacte de responsabilité et l'amortissement accéléré sur les investissements ont favorisé la création d'emplois dans les services, toujours selon Patrick Artus. Mais notre croissance est un peu bas de gamme, nuance le président du Cercle des économistes, Jean-Hervé Lorenzi, toujours dans le JDD. Beaucoup d'emplois sont créés dans les services non qualifiés et le plus souvent en CDD. Malgré tout, la reprise est là et pour l'illustrer, l'hebdomadaire prend l'exemple de Roubaix. La ville du Nord, touchée par le chômage de masse, transforme petit à petit ses friches industrielles en pépinières de start-up. L'ancien berceau du textile et de la vente par correspondance a essuyé les aléas économiques et la désindustrialisation, écrit Emmanuel Soufi. Il en conserve les stigmates, oui, mais comme un héritage porté fièrement, plus que comme un poids qui incite au désenchantement. Pas facile de se débarrasser de l'étiquette de ville la plus pauvre de France. Mais aujourd'hui, Roubaix innove et crée de l'emploi. 150 en moins d'un an, rien qu'à l'incubateur Blanchemaille et aux 20 start-up qui ont pris leur quartier dans ces 13 000 mètres carrés de bureaux installés dans les anciens locaux de la Redoute.
Roubaix n'est pas la seule à travailler sur son image. Il y a un homme qui prend cela très au sérieux.
Et cet homme, c'est Emmanuel Macron. Le Parisien aujourd'hui en France en fait sa une du jour. Comment Macron se met en scène, titre Le Quotidien, sur une photo du président qui embrasse son épouse. Le journal consacre une double page à cette maîtrise extrême de l'image, ce contrôle permanent du chef de l'État. Emmanuel Macron sur le perron de l'Élysée, Emmanuel Macron élitreillé au-dessus d'un sous-marin, Emmanuel Macron encore qui joue au football, liste les auteurs de l'article qui parle d'une nouvelle ère en termes de communication présidentielle.
Et le dernier homme du jour dans la presse, c'est celui qui vaut 222 millions d'euros.
Le footballeur Neymar, attendu comme le Messi ce soir au Parc des Princes pour ses premiers pas à domicile avec le PSG face à Toulouse. Mais dans l'équipe, Neymar n'est pas le seul homme dont on parle. Ils sont deux, lui et Daniel Alves. Les deux Brésiliens, devenus inséparables pendant leurs 3 saisons au Barça, se sont retrouvés cet été au PSG. Tout sauf un hasard, assure Franck Faugère. Neymar aurait convaincu son ami de signer à Paris.
Alors, je vous laisse respirer. Pardon. Je vous en donne, Rosalie Lafarge. Alors, on en était à Neymar. Elle est en train de s'étouffer, Rosalie Lafarge. Prenez votre temps.
Excusez-moi.
Ça va mieux. Alors, allez-y. Neymar aurait convaincu son ami de signer.
Oui, il faut dire que en fait la complicité entre Neymar et Daniel Alves dépasse le cadre du football. Ils dînent, ils font du shopping, ils sortent en boîte, ils partent en vacances ensemble. Et ces deux-là se respectent, s'admirent et s'adorent. À tel point qu'Alves est l'un des rares à pouvoir révéler des petits secrets sur l'attaquant brésilien, souligne l'équipe. Et c'est d'ailleurs grâce à lui qu'on sait que Neymar est un frère protecteur, qui a par exemple bien du mal à digérer le fait que sa sœur soit un sujet récurrent dans le vestiaire de la Seleção. Ses coéquipiers parisiens sont prévenus.
Au moins c'est dit. Merci Rosalie Lafarge.